Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Mener le bon combat, c'est le titre de ce dernier ouvrage par audition du CERF. Je reçois son autrice, libraire, présidente du groupe La Procure, laïque dominicaine. Bonjour Céline Guillaume.
Bonjour Nathalie.
Alors, vous êtes une femme, oui, mère de famille, oui, engagée, oui, dans le combat, oui. Et quand on vous lit, et quand on lit aussi et qu'on découvre la Légion étrangère à travers aussi vos écrits, on comprend ô combien aussi il y a une place et des places très importantes, et je souhaiterais avec vous, au milieu de cette semaine de la série, rendre hommage à toutes ces femmes de légionnaires. Vous les avez rencontrées, vous les avez certainement aussi écoutées et interrogées. Qu'est-ce que vous pourriez témoigner du statut de ces femmes qui sont engagées aux côtés de leur époux?
En fait, il y a plusieurs types de femmes, si j'ose le mot, il n'est pas très heureux, mais profils. Parce que c'est vrai que quand on pense à l'armée de façon générale et la Légion étrangère en particulier, on peut se dire, mais où sont les femmes? Donc il faut chercher la femme.
Voilà, mais ça
c'est le titre de mon livre précédent. Donc j'ai cherché les femmes au sein de la Légion. Et il y a donc deux profils différents. Il y a les femmes officiers qui encadrent les légionnaires. Et dans l'armée française, il y a des femmes. Il ne faut pas non plus sous-estimer leur place. Elles comptent beaucoup. Et en particulier au sein de la Légion. Ce qui m'a touchée au sein de la Légion étrangère, c'est le respect que ces soldats porte aux femmes. Alors ça peut sembler étonnant, surprenant, peu crédible, mais en fait si, je peux en témoigner. Moi j'avoue qu'à chaque fois que j'ai franchi les murs d'un régiment, j'ai reçu un accueil en tant que femme, mais avec une bienveillance, un sens de la courtoisie, mais qui ferait du bien à notre société française. Ils vous portent votre cartable, il y a un légionnaire, je me souviens un jour, qui m'accompagnait sous pluie battante, des hallebardes. Il tenait le parapluie et il voulait pas être trop proche de moi, donc il était lui en dehors du parapluie, c'était un très grand parapluie. Hein. Et il se faisait rincer par la pluie qui tombait et j'étais un peu gênée, et lui me tenait le parapluie. Non, vous inquiétez pas, tout va bien, le légionnaire il est au-delà de ça. Enfin bref, ils ont un sens du service, oui, du respect, etc., qui est très touchant. Et donc les femmes au sein de la Légion, il y a donc les officiers, qui vivent avec eux ou qui les encadrent et qui les dirigent, hein, au sein des missions, etc., ou au régiment. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer quelques-unes, et notamment l'une d'elles à qui je demandais, mais est-ce que ce n'est pas difficile parfois pour une femme d'encadrer des légionnaires, parce que c'est, encore une fois, on a quand même un peu ces modèles caricaturaux en tête. Et elle m'a répondu, écoutez, je n'ai jamais eu de problème, et si jamais un légionnaire me manquait de respect, ce sont les autres qui l'attraperaient par le col et lui feraient la leçon dehors. Et donc elle m'a dit, non, j'ai jamais eu de problème. Et le général à qui j'en ai parlé aussi m'a dit, non, les femmes dans la Légion, du moment qu'elles sont simples, qu'elles sont compétentes, et elles sont compétentes, et que les hommes sentent qu'ils ont des officiers.
Elles femmes, sont féminines, elles gardent leur féminité.
Elles sont en uniforme, comme les hommes, elles ont les mêmes uniformes, donc on sent que ce sont quand même des femmes qui ont du tempérament, hein, il faut quand même... Mais comme dans tout... J'irais dans beaucoup de cadres de responsabilité. Il faut des femmes construites, il faut des femmes solides pour diriger les hommes, que ce soit en entreprise, je suis bien placée pour le savoir, ou à l'armée ou ailleurs. Donc ce sont des femmes droites qui ont des belles personnalités. Et en même temps, pareil, hier on parlait du sens de la justice, de l'équité, etc. Ces femmes savent que pour avoir une autorité qui vient d'en bas, qui va leur être donnée, mais il faut qu'elles soient justes et que leur directive soit opportune, etc. Donc elles sont très conscientes de tout ça. Bref, en tout cas, il y a ces femmes officiers dans la Légion. Et puis surtout, il y a toutes ces femmes de l'ombre qu'on connaît peu ou pas, qui sont les épouses des légionnaires. Alors quand ils arrivent à la Légion...
Elles vous écoutent peut-être aujourd'hui.
Eh ben, j'espère et je souhaite vraiment leur rendre hommage, parce que ce sont des femmes de l'ombre qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. Quand on regarde le défilé du 14 juillet, on voit ces légionnaires magnifiques avec leur képi blanc qui défilent, etc. Mais on pense peu ou pas à leurs épouses. Alors, ils ne sont pas tous mariés, bien sûr, mais il y a une chose qui tient plus que tout pour le légionnaire, c'est sa famille. Quand ils viennent
c'est
à la Légion,
pour lui.
C'est complètement sacré. Ils viennent chercher une famille, et quand ils ont la chance de pouvoir trouver l'épouse qui comprendra aussi ce qu'est leur vie, parce que c'est très particulier une vie de légionnaire, hein, ou de militaire, mais encore plus de légionnaire, et donc d'avoir ces femmes qui vont être capables d'attendre, parce qu'elles sont dans la patience, elles attendent quand leur mari part pour plusieurs mois de mission. Ben, elles attendent, c'est
vous
ça.
Vous avez pu en rencontrer quelques-unes, les interroger aussi.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout comme les légionnaires viennent de 145 pays différents, ben, les femmes, souvent, elles viennent de plein de nationalités différentes. Ouais. Et donc, entre elles, les liens ne sont pas toujours simples non plus, parce qu'il faut faire avec ces différences culturelles, linguistiques, etc. Et pour autant, alors, ce qui les unit, c'est d'abord le fait qu'elles ont toutes des maris légionnaires. Donc, déjà, ça réunit. Il y a une cause commune, j'allais dire. Et puis quand elles ont des enfants, et malheureusement surtout quand un légionnaire part au combat et qu'il ne revient pas parce qu'il a été tué au combat, bah, ces femmes, elles attendent et parfois leur mari ne revient pas. Et ça, c'est l'épouse du général qui me racontait c'est un exemple de ce type de situation où 2 mois après être partie au combat, 2 cercueils sont rentrés au lieu d'un mari ou d'un père. Et elle m'a dit, nos maris à nous, les femmes d'officiers étaient tous en mission. Donc, elle nous disait, c'est notre rôle d'être là pour ces femmes, ces enfants, ces familles. Et là, on sent, enfin, dans ce qu'elle m'a raconté, son témoignage était bouleversant. Elle me dit, il n'y a plus l'épouse du général ou du képi blanc. On est toutes pareilles. Parce que devant un cercueil, en fait, on est femme, épouse, mère. Et donc, on se tient là et elles pleurent ensemble. Elles forment un cercle d'unité. Qui est un très beau reflet aussi de l'unité que les légionnaires vivent au quotidien. Et quand j'ai pu écouter ou rencontrer ces quelques femmes épouses de légionnaires, moi je me dis finalement, si la Légion tient, c'est grâce aux femmes. Elles portent la Légion parce que quand leur mari rentre, grâce à Dieu, et qu'il rentre, alors parfois ils sont aussi blessés de façon très grave et leur mari va plus être le même après qu'avant cette mission extérieure. Ces femmes, elles attendent beaucoup et oui, elles sont exemplaires de patience et de don aussi de leur vie parce que elles attendent leur mari. Pardon, ce que je voulais dire, c'est que les hommes, ces légionnaires, quand ils vont rentrer et qu'ils trouvent leurs épouses qui les attendent, c'est aussi un lieu pour eux de ressourcement et de s'assurer qu'au combat, ils n'ont pas perdu leur humanité. Un combat, un conflit armé, c'est forcément des lieux de violence qui peuvent être extrêmes. Et donc, il y a des choses terribles qui se vivent dans le monde. Et donc, ces hommes, quand ils rentrent, ils ont besoin de vérifier qu'ils restent bien humains, qu'ils n'ont pas perdu cette part d'humanité qui fait qu'ils sont des hommes. Vous savez, il y a cette très belle phrase qui dit « Chaque homme est une histoire sacrée ». Quand ils rentrent chez eux, qu'ils retrouvent leur épouse et leurs enfants, pour moi, c'est ça. Ils retrouvent la sacralité de leur vie. Quel qu'ait été le combat, quelles qu'aient été les circonstances, ça reste des humains, en fait. Des personnes humaines, avec un corps, un esprit, une âme. Et je pense que l'épouse, la femme du légionnaire, est ce lieu où le légionnaire va retrouver son âme.
Donc, et retrouver la chaleur du foyer, ouais. le réconfort.
Oui, oui, absolument. La fidélité. Vous imaginez ces femmes qui attendent, qui restent fidèles. Moi, je trouve que vraiment... J'ai énormément d'admiration pour elle. Alors, comme dans la vie normale, civile, il y a aussi des ruptures, etc., malheureusement. Alors, il faut aussi savoir que les officiers de la Légion sont soucieux des familles des légionnaires parce qu'ils savent combien, pour ces hommes, il est important qu'ils puissent rentrer dans leur foyer, retrouver leur épouse et leurs enfants. Et donc, quand ils sentent qu'il y a des tensions... En fait, ils sont tellement frères tous, hein, les légionnaires entre eux, mais les officiers...
Donc, vous décrivez, et vous le décrivez aussi dans votre livre, Céline, permettez-moi, mais c'est une vraie famille.
Une grande famille, c'est ce que j'allais dire, absolument.
Vous nous décrivez, vous l'avez vu de vos yeux, vous les avez rencontrés, vous les avez écoutés. Cette famille existe bel et bien.
Ah bah, complètement. D'ailleurs, il y a quelque chose...
Une famille où on parle de communion aussi.
Alors, il y a même quelque chose de très fort, c'est que le général commandant la Légion étrangère, au sein de la Légion, on l'appelle le Père Légion. donc c'est quand même fort. Et d'ailleurs, en réfléchissant, en écrivant ce livre, je me disais, mais en fait, tous les fils, pour devenir des hommes, ont besoin d'un père. Oui, oui. Mais dans nos familles aussi, tous les fils, pour devenir des hommes, ont besoin d'un père. Quand un garçon n'a pas le modèle paternel, mais en fait, c'est très compliqué de se construire et de devenir un homme. Légionnaire, l'homme qui vient frapper à la Légion, qui cherche une famille...
Il cherche parfois aussi père qui
n'existait peut-être pas. Il a besoin d'une figure paternelle, tout comme Saint Paul, quand il s'adresse à Timothée. D'ailleurs, il s'adresse à lui en lui disant « mon fils ». On sait bien que Timothée n'est pas le fils biologique de Saint Paul, mais peu importe, il y a une filiation entre eux qui est très forte. J'en parle dans mon livre, mais tout comme le légionnaire
vous
vis-à-vis...
Vous en parlez du début à la fin, hein, du légionnaire et puis de l'apôtre...
Et de Saint-Paul, parce qu'ils vont bien ensemble.
Saint-Paul vous a saisi
complètement.
Votre parcours de femme.
Oui, oui, bah, comme il a été saisi par le Seigneur, d'ailleurs, sur la route de Damas. Hein, c'est, j'en parle aussi dans le livre. C'était quand même... Alors voilà, quelqu'un qui menait le mauvais combat. Saint-Paul qui partait chercher ceux qui croyaient en la voie. La voie, c'était le Christ, fils de Dieu, mort et ressuscité. Saint-Paul ne pouvait pas supporter cette croyance, cette foi que tous ces gens, de plus en plus nombreux, mettaient dans Jésus-Christ. Et donc, il persécute les chrétiens en se disant « Mais la vérité n'est pas là. Ce n'est pas ma vérité, ce n'est pas celle-là, celle de mes ancêtres, etc. » Et donc, il faut combattre ces personnes, ces hommes, ces femmes. Et quand il part à Damas, il a quand même des lettres écrites des grands prêtres de Jérusalem pour arrêter les chrétiens de Damas. Et puis voilà, il y a cette révélation qui se fait, le Christ qui se révèle à lui de façon tout à fait fulgurante, imprévisible, au point que saint Paul en tombe à terre. Enfin, il y a cette lumière, il a une vision, il entend une voix. C'est un moment très fort qui lui dit « Saul, Saul », parce qu'à ce moment-là, il s'appelle encore Saul. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Et saint Paul, qui est à terre, et on peut comprendre, devant un moment aussi hors norme, qui lui dit « Mais Seigneur, qui es-tu ? » Et la réponse du Christ de dire « Je suis Jésus que tu persécutes ». Ce « je suis », il faut remettre saint Paul qui était pharisien, fils de pharisien, qui connaît les Écritures par cœur, qui connaît l'histoire du peuple hébreu depuis les origines et qui sait que lorsque Dieu se présente à Moïse ou à un autre prophète, il dit « Je suis ». Je suis, c'est vraiment l'identité de Dieu. Et quand saint Paul entend « je suis », avant même que Jésus dise « je suis Jésus », il entend d'abord ce « je suis ». En fait, tout de suite, lui, dans sa tête, il comprend, il se dit « mais c'est Dieu, en fait. C'est le Dieu de mes pères. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, celui que j'aime et pour qui je veux donner ma vie. Mais en fait, c'est celui que je persécute. » Et pour lui, mais tout bascule. Et il y a de quoi en tomber par terre, à la renverse. Enfin, chercher à faire le bien. C'est quand même une grande mission, croyant ou non croyant. Et donc, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour faire le bien dans nos vies ?
Et faire le bien, croyant ou non croyant, et parfois donner sa vie.
Exactement.
Croyant ou non croyant.
Oui, absolument. Hein,
pour défendre la vie qui est sacrée. Céline Guillaume, on a dépassé un petit peu le temps pour aujourd'hui. Je vous propose de vous retrouver pour la suite de la série Dès demain. Alors, apprenons à mener le bon combat, mais quel est-il ? Discernons le bon combat aussi dans notre vie de tous les jours.
Merci Nathalie, au revoir.
Thank you.